ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. Il est 19h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 3 avril. La RDC, la vie tourne au ralenti à Kinshasa et Lubumbashi suite au mot d'ordre de ville morte lancé par l'opposition. Ici aux États-Unis, Donald Trump n'a pas tari d'éloges pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, reçu pour la première fois à la Maison-Blanche. Et puis en Russie, une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg qui a fait au moins 10 morts. Racisme mais attaque xénophobe en Inde. Notre magazine reviendra sur les ambassades africaines qui fustigent l'attitude de New Delhi. Et puis à suivre après votre journal, l'économie et les sports. Bienvenue chers auditeurs et merci pour votre fidélité. Les activités étaient paralysées dans plusieurs villes de la RDC ce lundi 3 avril dans la matinée. Cela fait suite au mot d'ordre de ville morte lancé par le rassemblement plateforme de l'opposition pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2017. Le point avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
École, bureaux, magasins, boutiques et autres commerces fermés, circulation des véhicules à peine visible sur la chaussée, c'est le visage qu'a affiché la ville de Kinshasa le matin de ce lundi 3 avril 2017. Même certains services de l'État ont eu du mal à ouvrir. Ceux qui ont ouvert ont reçu moins de monde que d'habitude. Les activités ont tourné au ralenti dans la matinée également à Mbujima et à Kananga dans le Grand Kasaï, ainsi qu'à Matadi dans le Congo central où le port, principale attraction commerciale de la ville, était paralysée. À l'est, par contre, l'appel à la ville morte du rassemblement a été diversement suivi. Si à Goma et à Bukavu, tout a quasiment tourné normalement, les activités étaient cependant paralysées dans la matinée à Beni et à Butembo, où seules quelques banques et stations-service ont ouvert. Lubumbashi, quant à elle, n'a pas suivi le mot d'ordre de l'opposition. La plupart des magasins et marchés ont ouvert comme à l'accoutumée et le transport en commun était visible dans la ville. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, des enquêteurs de l'ONU ont découvert 13 nouvelles fosses communes dans le centre du pays où des violences meurtrières opposent les forces de l'ordre et une milice depuis septembre. Le 22 mars, des enquêteurs onusiens avaient dénombré 10 fosses liées à ces violences entre les forces de l'ordre et les miliciens Kamuina-Nsapu dans le Kasaï, qui ont déjà fait au moins 400 morts, dont deux enquêteurs de l'ONU enlevés le mois dernier. En Gambie, c'est le dernier jour de la campagne électorale pour les élections législatives du 6 avril. Elles seront les premières depuis la chute de Yahya Jammeh qui avait dirigé ce petit pays d'Afrique de l'Ouest d'une main de fer pendant plus de 22 ans. Un séisme de magnitude 6,5 a frappé lundi le Botswana, selon l'Institut américain d'études géologiques. Une secousse ressentie dans plusieurs pays voisins, dont l'Afrique du Sud. Le tremblement de terre s'est produit vers 19h30 en heure locale, à 238 kilomètres au nord-ouest de la capitale Gaborone. La secousse a été ressentie dans la capitale et le bilan d'éventuels dégâts n'était pas encore connu ce lundi soir. Les principaux partis d'opposition d'Afrique du Sud se sont réunis lundi pour réclamer l'organisation d'un vote de défiance au Parlement contre le président Jacob Zuma après son remaniement ministériel controversé qui a coûté son poste au respecté ministre des Finances Pravin Gordhan. Les diplomates de 44 pays africains ont accusé lundi l'Inde de ne pas prendre les mesures nécessaires face aux agressions racistes répétées contre les Africains. Solange Nyamulisa nous en dit plus.
Une semaine après l'agression d'étudiants nigériens près de New Delhi, les ambassadeurs africains ont accusé le gouvernement indien de ne pas suffisamment condamner ces attaques à caractère xénophobe et raciste. Les chefs des représentations africaines ont appelé à une enquête indépendante menée par des groupes de défense des droits de l'homme, dont le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les vidéos de certains incidents ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ont déclenché un tollé mondial. La police a arrêté 6 suspects pour ces violences auxquelles des centaines de personnes avaient pris part. Les Africains en Inde, dont de nombreux étudiants, font régulièrement objet des vexations et d'humiliations. L'an dernier, un jeune Congolais avait été tué à coups de pierre et de briques à New Delhi après une querelle pour un taxi rickshaw.
Des pirates somaliens se sont emparés d'un bateau indien comptant 11 membres d'équipage. La troisième attaque du genre en moins d'un mois, a-t-on appris lundi auprès du propriétaire du navire et d'une source sécuritaire somalienne. L'Al-Kawsar convoyait des denrées alimentaires de Dubaï vers le port de Bosaso, dans le nord-est de la Somalie. Des responsables de la sécurité et du renseignement d'une trentaine de pays africains se sont eux réunis lundi dans la capitale soudanaise pour évoquer la lutte contre le djihadisme, une menace grandissante sur le continent. Selon un haut responsable de la sécurité présent à la conférence, des milliers de jeunes africains qui ont rejoint des organisations djihadistes comme le groupe État islamique représentent une menace réelle pour leur pays d'origine. Et puis l'armée égyptienne a annoncé dimanche avoir tué dans un récent raid aérien Abu Anas al-Ansari, un des cadres fondateurs de la branche du groupe État islamique dans le nord du Sinaï. Et puis cette dernière nouvelle, les camps de détention de migrants d'Afrique subsaharienne en Libye sont essentiellement des hangars à humains, a jugé lundi à Rome le directeur général de Médecins sans frontières Pays-Bas, de retour de mission, appelant à les sortir de là. Son ONG fournit une assistance médicale dans des centres placés sous le contrôle du gouvernement d'Union à Tripoli, mais de facto aux mains de milices avec lesquelles il faut sans cesse négocier des conditions d'accès.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a rendu un hommage appuyé à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, jugeant qu'il faisait un travail fantastique dans des conditions difficiles. Claire Morin-Gibourg revient pour nous sur cette visite.
Nous sommes clairement derrière le président Sissi. Nous sommes clairement derrière l'Égypte et le peuple égyptien, a déclaré M. Trump depuis le bureau ovale en recevant son homologue égyptien qui effectue sa première visite à la Maison-Blanche. Le président américain n'a pas évoqué la question des violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse qui étaient régulièrement soulevées par l'administration de Barack Obama. Assis à ses côtés, le président égyptien a exprimé son admiration pour la personnalité du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Le président égyptien, dont les propos étaient traduits par un interprète, a affiché sa volonté de travailler avec le président américain sur une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme. L'administration Obama avait gelé son aide militaire à l'Égypte en 2013, après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi de l'Égypte, pays arabe le plus peuplé, ce qui avait poussé la Maison-Blanche à infléchir sa position en 2015.
Et puis Jared Kushner, gendre et proche collaborateur du président Donald Trump, est arrivé lui lundi en Irak où il doit rencontrer des responsables irakiens et examiner l'avancée de la lutte contre le groupe État islamique. Cette visite intervient alors que les forces irakiennes ont lancé le 19 février une offensive pour reprendre la partie ouest de Mossoul, dernier grand bastion des djihadistes. Et puis on revient, je vous le disais en titre, sur la Russie. Une dizaine de personnes, une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait 10 morts et de nombreux blessés. Les autorités russes privilégient la piste terroriste, Morgane Guirec.
Alors la rame a touché par l'explosion se trouvait entre deux stations d'une ligne fréquentée du centre de la deuxième ville de Russie. Et peu après, une autre bombe artisanale a été désamorcée dans une autre station. Une enquête a été ouverte pour acte terroriste. Le président Vladimir Poutine, qui se trouvait à Saint-Pétersbourg, a déclaré qu'aucune piste n'est écartée. Les autorités ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans le métro de Moscou et les aéroports. Et puis, la municipalité de Saint-Pétersbourg a décrété 3 jours de deuil. Réaction dans le monde. Du côté de Washington, le président américain Donald Trump dénonce une chose horrible. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a présenté ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Il faut dire que le groupe État islamique avait appelé à frapper la Russie au début de son intervention pour soutenir les forces de Bachar al-Assad en Syrie en septembre 2015. Un mois après, un avion reliant l'Égypte et la Russie, avec 224 personnes à bord, avait explosé au-dessus du Sinaï. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique.
Merci Morgane. Et puis cette dernière nouvelle sur les recherches qui se poursuivaient lundi pour retrouver des survivants, mais les espoir s'amenuiser en Colombie, dans la ville de Moca, au sud du pays, qui a été dévastée par une coulée de boue qui a fait au moins 262 morts, dont au moins 43 enfants. Une base de données a été ouverte pour recenser les personnes disparues, qui sont au nombre de 220 selon le dernier bilan de la Croix-Rouge. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité économique en Afrique. La Minute Éco est présentée cette semaine par Jacques Aristide.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou a inauguré hier, près de Niamey, une centrale électrique diesel qui devrait réduire les fréquentes coupures d'électricité dans la capitale. Au coût de quelque 80 milliards de francs CFA, la nouvelle centrale produira 80 mégawatts dans une première phase, puis 100 mégawatts à terme. D'après la société nigérienne d'électricité, riche en uranium, le Niger importe depuis plusieurs décennies l'essentiel de son électricité du Nigeria, avec des pertes pouvant priver Niamey de courant pendant des journées entières. Au Maroc, les travaux viennent de démarrer pour compléter le projet Nour, une gigantesque station solaire près de Ouarzazat, aux portes du désert. La centrale, au coût de 75 millions de dollars environ, aura une capacité de production de 72 mégawatts, pouvant subvenir aux besoins de 17 000 foyers. Elle produira de l'énergie électrique directement à partir du rayonnement solaire. Après une légère régression, l'économie mauricienne doit connaître une croissance de 3,8% cette année grâce à un rebond dans les secteurs manufacturiers et de la construction. D'après l'Institut mauricien des statistiques, ce sont le textile et l'agroalimentaire qui devraient stimuler l'industrie manufacturière, alors que les investissements publics et privés soutiendraient la construction.
Et on retrouve tout de suite les sports avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Tatiana. Bonsoir à tous.
Hugo Brousse, convoqué par le gouvernement camerounais.
L'organisation, ou plutôt la désorganisation des Lions Indomptables tournerait-elle à l'affaire d'État au Cameroun suite aux déclarations? Après la défaite face à la Guinée 2-1, le sélectionneur Hugo Brousse va entendre ses oreilles siffler ce lundi puisqu'il y a une réunion en cours du comité exécutif de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. On se souvient que le technicien belge qui avait dénoncé l'incompétence de certains encadrants et évoqué la possibilité de quitter son poste, affaire à suivre.
On reste au Cameroun avec cette bonne nouvelle pour Rigobert Song.
Retour au bercail et en parfait état de santé pour le footballeur camerounais Rigobert Song. En octobre dernier, souvenez-vous, l'ex-capitaine des Lions Indomptables avait été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une évacuation sanitaire en France. Après 7 mois, il a retrouvé son pays natal où de nombreux fans sont venus l'accueillir à l'aéroport de Yaoundé. C'était samedi dernier.
Football côté justice et on reparle corruption à la FIFA.
L'ancien patron du foot guatémaltèque, Brian Jiménez, a écopé d'une suspension à vie pour son implication dans le scandale de corruption de la FIFA. Décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique de l'instance mondiale du football. L'ancien président de la fédération guatémaltèque, âgé de 62 ans, a plaidé coupable notamment des chefs de conspiration en vue d'extorsion de fraude en lien avec des pots de vin reçus en échange de l'octroi des droits médias et marketing portant sur des matchs de qualification de l'équipe du Guatemala pour les Coupes du Monde 2018 et 2020. 22.
Dopage, une substance interdite découverte dans les urines de sprinteurs jamaïcains de Pékin 2008.
L'Agence mondiale antidopage critique le CO et l'AMA pour n'avoir pas enquêté après la découverte de clambutérol, un produit interdit dans des échantillons d'urine de sprinteurs jamaïcains lors des Jeux olympiques 2008. C'était à Pékin. Le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage ont reconnu avoir classé ces cas en raison de faibles dosages, attribuant cette présence du clambutérol à une probable consommation de viande contaminée. Les sprinteurs jamaïcains emmenés par Usain Bolt au sommet de son art avaient remporté 5 médailles d'or à Pékin. Les vainqueurs du relais 4x100 mètres masculin dont Bolt ont cependant dû rendre en janvier leur médaille d'or après le test positif de l'un d'entre eux, Nesta Carter, à un stimulant et ce 8 ans après les Jeux.
Et on clôt avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State a aligné une 11e victoire consécutive en écrasant Washington 139 à 115 hier grâce à sa star Stephen Curry en grande forme à 2 semaines du début des playoffs. Les Warriors ont une avance de plus de 3 victoires sur leurs dauphins et grands rivaux de San Antonio, vainqueur hier de Utah 109 à 103.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous toujours Tatiana Mosso, place à nos dossiers en direct. Après 7 jours de débat, les travaux de la conférence d'entente nationale au Mali se sont achevés ce dimanche. À la fin des travaux, un rapport a été remis au président malien Ibeka, qui a décidé de mettre en place un comité de sages pour trancher définitivement la question de l'Azawad et examiner la situation de conflit au centre du pays. Kassim Traoré.
Ça a été une semaine de débats, d'échanges autour de l'unité nationale, la réconciliation et la paix. Aliou Nioun Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali.
Il faut réellement qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on n'agrippe pas des choses pour nous faire plaisir, nous-mêmes. C'est comme ça même qu'on ne pourra pas appliquer et après on va dire que c'est le gouvernement qui n'a pas pu appliquer. Je partage entièrement ce que l'ancienne ministre, Madame Sikadjoso, a dit. Toujours on croit que quand on dit appliquer, c'est seulement le gouvernement. Qui empêche aujourd'hui l'application? Ce sont les groupes armés. Donc il faut qu'on examine les problèmes à fond. Évitons de nous raconter des histoires. Tant que nous raconterons des histoires, nous ne pourrons pas nous entendre.
Hésitante au début des travaux, l'opposition malienne a fini par rejoindre le train de l'entente nationale avec ses propositions. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
L'opposition politique réaffirme que la seule solution pacifique, viable et inclusive de résolution de la crise multiforme que connaît notre pays passe par la tenue d'une concertation nationale inclusive, regroupant l'ensemble des forces vives de la nation autour des problèmes institutionnels de défense, de sécurité, de gouvernance et de développement.
La conférence d'entente nationale a évoqué aussi la question de l'Azawad. Noum Sangaré, rapporteur général de la conférence.
Ce qui est ressorti des débats, c'est que, un, le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad, au plan administratif, ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Par contre, la conférence a reconnu que l'appellation Azawad recouvre une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique partagée par certaines populations du Nord du Mali.
Lors de la plénière d'adoption de ce rapport final, qui est aussi la synthèse des travaux, la CEMA n'a pas caché sa colère.
Je relève dans ce rapport qu'il n'a pas été fidèle. Quand on dit qu'il a été arrêté consensuellement que l'Azawad devrait être une entité géographique, une réalité mémorielle, ça c'est des acquis de l'accord d'Alger de 2015. Nous ne sommes pas là pour discuter des acquis, nous sommes là pour avancer. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, si on veut la paix, il faut admettre la réalité. La réalité c'est que tant que l'Azawad n'a pas un statut juridique et politique, il n'y aura pas de paix.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le rapport lors de la cérémonie de clôture. Pour lui, la question de l'Azawad n'a pas été tranchée. Il souhaite aussi que la situation conflictuelle au centre du pays soit examinée par un comité d'experts qui sera mis en place bientôt.
Je puis vous assurer, la bataille pour la paix, nous continuerons avec tous les frères. Sans complexe aucun, tel n'est pas le luxe qui m'est permis aujourd'hui. Je m'adresserai à chacun et à chacune pour que chacun et chacune puisse apporter la pierre, l'étincelle de son intelligence, sa contribution pour que l'œuvre commune arrive à bon port. J'en prends l'engagement. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, aider notre pays à retrouver la sérénité par la plus belle des victoires sur nous-mêmes, en apaisant nos cœurs et en enchassant les démons de la colère.
L'équipe qui a organisé la conférence d'entente nationale restera sur place jusqu'à l'élaboration de la charte nationale pour l'unité et la paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Et je vous en parlais en titre. 44 diplomates africains basés en Inde accusent le gouvernement indien de ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire face aux attaques à caractère racial visant la communauté africaine dans ce pays. Cette réaction est intervenue après qu'une dernière attaque soit survenue quelques jours auparavant dans la banlieue de New Delhi contre des Nigérians qui continue de susciter l'indignation sur les réseaux sociaux. Écoutons l'analyse de Boubacar Sey, président de l'association
l'association Horizons sans frontières, basée à Dakar, qui répondait à Abdourahmane Dia.
La gestion scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité continue encore de faire des victimes, en Inde notamment, avec ces attaques devenues récurrentes sur les ressortissants africains. Horizons sans frontières dénonce effectivement ces violations des droits humains, notamment des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit à la vie est sacré. C'est la raison pour laquelle Horizons sans frontières exhorte les autorités indiennes à veiller à la sécurité et à l'intégrité physique de ces Africains.
Ce n'est pas la première fois que les diplomates africains dénoncent le manque de réactivité du gouvernement indien. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le rappel sera entendu?
Oui, mais bien sûr, il faudrait aller même au-delà du rappel. Il faudrait que le gouvernement indien prenne ses responsabilités. Il y a eu beaucoup de laxisme qui a été noté et dénoncé dans la gestion des flux migratoires en Inde. Donc aujourd'hui, nous appelons au sens de l'honneur et de la responsabilité. Il faudrait que ça cesse. Cette spirale de violence aujourd'hui sur les ressortissants africains doivent cesser impérativement. Sinon, nous allons passer à la vitesse supérieure.
Qu'est-ce que vous appelez la vitesse supérieure?
Oui, mais il faut dénoncer, il faut porter plainte parce que ces attaques sont devenues récurrentes. Il y a un action total. Il faut que les autorités indiennes prennent leurs responsabilités, renforcent les processus d'intégration. Je rappelle qu'on ne peut pas parler d'immigration sans intégration. Et l'intégration devrait être un processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle.
Pour ce qui est des gouvernements africains, qu'est-ce qu'ils devraient faire à votre avis?
Malheureusement, nous l'avions toujours dénoncé, il y a une faiblesse des diplomaties africaines aujourd'hui sur la gestion de ces flux-là. Les Africains, vu ce contexte géopolitique prétendu miné par la xénophobie, le racisme, les discours populistes, l'Afrique brille par son absence en ce qui concerne aujourd'hui la protection de ces ressortissants à l'étranger. Je crois qu'il faudrait une harmonisation des positions en vue d'une diplomatie à la hauteur des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Sinon, malheureusement, nous allons toujours vivre ce genre de situation.
Après 4 ans de relations tendues avec l'administration Obama, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré aujourd'hui à Washington son homologue américain Donald Trump, qui, contrairement à son prédécesseur, ne cache pas son admiration pour l'Égyptien. Les deux hommes souhaitent insuffler un nouvel élan aux relations entre les deux pays. Salwa Jafari a contacté Jean Marcou. Il est professeur chercheur spécialiste du Moyen-Orient.
Je pense qu'on va surtout parler de dossiers stratégiques, c'est-à-dire le positionnement de l'Égypte, notamment au Moyen-Orient et dans la guerre contre Daesh, le rôle que l'Égypte peut jouer dans la résolution, les tentatives de résolution du conflit entre Israéliens et Palestiniens, le positionnement aussi de l'Égypte par rapport à l'Arabie Saoudite. Hein. Les experts ont dit que apparemment l'administration américaine jouait un jeu à plusieurs bandes, c'est-à-dire essayait d'entrer en contact avec l'Égypte, améliorer ses relations avec l'Égypte pour rétablir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite.
Alors, vous l'avez dit, l'ancien locataire de la Maison Blanche, Barack Obama, témoignait peu d'égards envers Sisi. L'aide militaire américaine de 1,3 milliard de dollars par an avait même été temporairement suspendue. Aujourd'hui, le président Trump menace de réduire les aides internationales. Va-t-il faire une exception à votre avis?
Eh bien, on va voir, justement. A priori, la rhétorique est pour l'instant très bonne parce que le président Trump était allé en Égypte l'année dernière avant son élection et il avait qualifié Abdel Fattah al-Sissi de type fantastique. Après, il faut voir effectivement si, comme on dit en français, si l'intendance suit et si finalement cela amènera un rétablissement, voire une augmentation de l'aide américaine. D'un autre côté, il faut voir qu'à l'heure actuelle, pendant longtemps, l'aide américaine a été l'une des rentes de cette économie égyptienne en permanence déficiente. Aujourd'hui, cette économie est plus déficiente que jamais, mais elle a des prêteurs, enfin elle a des pourvoyeurs financiers qui sont considérables. Les pays du Golfe, à l'heure actuelle, qui maintiennent l'Égypte à flot avec des contributions qui avoisinent plus de 16 milliards de dollars, alors même que l'aide américaine et de 1 à 2 milliards.
C'était Jean Marcou, il est professeur chercheur spécialiste du Moyen-Orient. Il était joint par Salwa Jafari.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une Congolaise et une Nigérienne parmi les lauréates 2017 du prix international Femmes de Courage, attribué chaque année par le département d'État américain. La jeune militante congolaise Rebecca Kabougo et le major Aïchatou Issaka Ousmane ont reçu leur récompense des mains de la nouvelle première dame Melania Trump, Nathalie Barge.
Considérée comme la plus jeune prisonnière de conscience du monde, Rebecca Kabougo n'avait que 21 ans lors de sa première arrestation en RDC. En février 2016, elle et cinq de ses camarades ont été arrêtés et condamnés pour incitation à la désobéissance civile. Les six membres de la Lucha ont passé 6 mois en prison à Goma.
Ça fait mal, oui, la prison. Il y a des moments où on se sent un peu seul. Mais quand tu penses à la grandeur du Congo, cette population qui est en train de souffrir chaque jour et que tu t'es engagée à faire la lutte, moi, je me sentais un peu soulagée.
Le 19 décembre, Rebecca et 18 autres militants ont été de nouveau arrêtés et libérés une semaine plus tard. Plus déterminée que jamais, elle a déclaré à la Voix de l'Amérique qu'elle ne baissera jamais les bras face aux politiciens.
C'est à nous, la population, de prendre notre destin en main. C'est à moi, c'est à quelqu'un d'autre qui vit cette répression, de se mettre en tête que c'est lui le changement. C'est lui qui doit faire changer les autres. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance aux politiciens. Ce ne sont pas eux qui sont en train de souffrir. Les enfants ne sont pas même au pays. Ils étudient à l'étranger. Quelqu'un a un mal de tête et il part à l'étranger pour aller se faire soigner. Comment il va construire le pays? Comment il va arranger des routes? Ce ne sont pas les hommes politiciens qui vont changer notre situation, notre quotidien, mais c'est à nous, la population, de se prendre en charge.
Pour Rebecca, l'engagement citoyen est l'affaire de tous, sans oublier les femmes.
Nous sommes en train de mener cette activité, comment sensibiliser les femmes, comment les femmes doivent aussi prendre cette conscience que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont là pour changer les choses, c'est à nous aussi de faire notre preuve de courage, notre preuve d'engagement, notre preuve de détermination de faire quelque chose.
De son côté, la lauréate nigérienne Aïchatou Issaka Ousmane encourage également les femmes à s'engager dans l'armée et les opérations de maintien de la paix.
Il faut davantage de femmes dans les opérations de maintien de paix parce que quand on parle de maintien de paix, on s'engage auprès de la population locale et qui dit population locale parle d'hommes et de femmes. Donc on a besoin aussi de femmes qui puissent prendre en charge les préoccupations de ces femmes victimes de leurs conflits, des conflits et aussi amener leurs préoccupations afin qu'elles soient prises en compte.
Mère de 3 enfants, Aïchatou Issaka Ousmane a servi dans la région de Difa et au Mali au sein de la MINUSMA. Elle souligne que les femmes doivent être présentes aussi dans les sphères de prise de décision.
Il est important aussi de faire participer les femmes dans les maintiens de paix pour qu'elles puissent avoir l'expérience nécessaire et donner leur point de vue par rapport à la question des conflits.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Lionel Gaïma. À la console, nous avons notre collègue et puis à la présentation, nous avons Tatiana Mosso, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour 24 heures sur 24 d'actualité et je vous souhaite une très belle soirée.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.